RCF.
Peu de temps avant d'être arrêté et crucifié, Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas. Alors qu'il vient de leur laver les pieds, le maître serviteur leur offre en partage des paroles profondes, vivantes, sorte de testament spirituel qu'ils n'oublieront pas. L'évangile de ce dimanche évoque ce moment fort empreint d'une grande intimité. Il est question d'amour, de paix, de joie et du don de l'esprit. Pour commenter cet évangile, je reçois Antoine Nuis. Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous êtes écrivain et théologien protestant, auteur d'un commentaire intégral du Nouveau Testament paru en 2018 chez Olivetan et Salvator. Nous commençons par écouter l'évangile de Jean. C'est au chapitre 14, versets 23 à 29.
Jésus disait à ses disciples: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez.
Antoine Nuis, il faut rappeler que ce passage de l'évangile de Jean que nous venons d'écouter fait partie du discours des adieux aux disciples. On peut parler d'un testament spirituel de la part de Jésus juste avant sa passion?
Alors oui, c'est un passage qui est spécifique dans l'évangile de Jean, et c'est la forme d'un testament. D'ailleurs, la forme d'un testament, c'est une forme littéraire. On trouve ça, par exemple, Socrate a fait la même chose. C'est un maître, avant de mourir, réunit ses disciples et leur résume l'essentiel de son enseignement. Et bien, d'une certaine manière, nous pouvons considérer que chez Jean, ces chapitres, la fin du chapitre 13 et puis les chapitres 14, 15 et 16 constituent l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire la parole que Jésus veut laisser à ses disciples avant de les quitter.
Alors, il faut dire que ces paroles, ces gestes sont là tout au cours de sa vie. Ils vont imprégner les disciples, on le voit dans tous les évangiles. Mais là, Jean, c'est vraiment spécifique.
Voilà,
Jean, il y a un long discours, très long.
Voilà, c'est ce long discours dans lequel Jean a récapitulé un petit peu le testament. Je crois vraiment le testament spirituel que Jésus laisse à ses apôtres.
Jésus disait à ses disciples: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui, nous ferons une demeure. Si quelqu'un m'aime, déjà on parle de l'amour là, qu'est-ce que ça veut dire aimer selon Jésus?
Et bien alors ici, dans justement ces quelques chapitres de l'évangile de Jean, aimer c'est lié à garder ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il ne dit pas « il obéira à ma parole », il la gardera, il la protégera, il en prendra soin. C'est-à-dire que cette idée de la foi qui n'est pas comme une croyance, qui n'est pas comme une obéissance, mais comme une façon de prendre soin de la parole, c'est-à-dire de l'écouter, de la travailler, de se laisser progressivement imprégner par elle.
Donc garder la parole, c'est en prendre soin. On pourrait dire aussi que la parole nous garde dans l'autre sens.
Alors absolument, parce qu'il dit « et celui qui garde ma parole, je ferai ma demeure chez lui ». Donc il y a vraiment ce... Alors la question, donc garder la parole et puis faire la demeure. Et la foi comme demeure, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'évangile de Jean et qui est cette idée de la foi, comme je disais tout à l'heure, qui n'est pas une croyance, mais qui est une habitation. Comment le Christ et sa parole viennent habiter en nous, viennent habiter dans nos journées. Et c'est un peu ça qui est la spiritualité de l'évangile de Jean et que je trouve qui est assez, assez éloquente. Moi, j'aime bien cette compréhension de la foi comme étant une demeure, inviter le Christ à venir habiter notre demeure.
Et quand vous dites que ça n'est pas une croyance, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut imaginer de la foi, les cathos croient en ceci, cela.
Ou oui, les protestants d'ailleurs. Hein.
Absolument, absolument. Mais voilà, trop souvent, la question c'est je crois en Dieu ou je ne crois pas en Dieu. Eh bien, l'évangile de Jean déplace un petit peu la question et en disant, ça n'est plus je crois ou je ne crois pas, mais je vis le Christ ou je vis pas le Christ. Je garde la parole ou je garde pas la parole. Hein. C'est-à-dire que c'est un registre un petit peu différent que de la dimension du savoir, mais peut-être c'est un registre qui concerne pas simplement notre intelligence et notre savoir, mais peut-être la totalité de notre existence, de nos sentiments, de nos aides, de nos paroles, de nos...
Notre corps.
Voilà, exactement. On croit avec notre être tout entier.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Alors, le Père intervient là. Est-ce qu'il y a des conditions, justement? Il y aurait des conditions pour être aimé du Père?
Alors, je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faille l'entendre. Vous savez, alors, on dit, un des versets le plus important de la Bible qu'on trouve dans l'évangile de Jean, hein, c'est « Dieu a tellement aimé le monde hein. ». Et dans ce verset, souvent d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas toujours, c'est que le mot « monde » dans le quatrième évangile n'évoque pas le monde gentil, n'évoque pas le monde aimable, mais au contraire, évoque le monde qui a rejeté Dieu. Hein.
L'adversité.
Voilà, au commencement était la lumière et le monde a rejeté la lumière. Et le monde n'avait pas voulu de la lumière. C'est-à-dire que lorsque l'évangile nous dit que Dieu a aimé le monde, il n'a pas aimé le monde parce que le monde est aimable, le mot monde est justement ce qui n'est pas aimable, mais parce que Dieu est amour. Et donc que l'être de Dieu et que le don du Fils, que le don de l'Évangile, c'est justement habité par un amour de Dieu qui est premier et qui n'est pas une réponse à nos bonnes actions, mais qui est premier, qui est fondamental. Et le problème, c'est que faisons-nous de cet amour? Est-ce que nous le laissons à l'extérieur de notre personne ou est-ce que nous essayons de l'accueillir pour venir l'habiter? Et c'est comme ça que je comprends le verset. Quand il dit « Dieu l'aimera », ça ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas si jamais il n'accueille pas la parole, mais ça veut dire qu'en gardant la parole, on accueille cet amour de Dieu. C'est-à-dire que cet amour de Dieu, là encore, n'est pas simplement une idée qu'on a apprise dans nos catéchismes, mais une réalité qu'on vient accueillir dans le quotidien de nos journées.
Donc c'est pour ça qu'il y a le mot « demeure ». Nous viendrons chez lui. Il y a le « nous hein, », le Père et le Fils. Nous viendrons demeurer. Voilà. Demeurer est un verbe employé de nombreuses fois chez Jean, vous l'avez dit. Ouais. Et donc, il y a l'idée de se laisser habiter finalement par le Père, le Fils et l'Esprit. Nous allons le voir un peu plus loin.
Oui, c'est vrai. C'est la foi comme habitation.
RCF. Enfin une bonne nouvelle.
Antoine Nouis, nous continuons à lire avec vous l'évangile de ce dimanche en Jean 14, versets 23 à 29. Jésus offre à ses disciples son testament spirituel, nous l'avons dit, avant sa passion. Alors Jean continue. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. » Ça veut dire que Jésus offre une parole qui s'origine ailleurs qu'en lui. Elle vient d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas lui en tant que personne, ce qui est important, c'est lui en tant que ce qu'il représente, c'est lui en tant que ce qu'il nous apporte, c'est lui en tant que celui qui est venu nous dire et nous permettre d'accueillir
le Père.
L'amour de Dieu, le Père.
Hein. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné.
Absolument,
qu'il est devenu homme.
Voilà, et dans cet évangile, je crois là, avant de sa passion, je veux dire, c'est dramatique, Jésus renvoie ses apôtres à l'amour du Père.
Il dit qu'il est envoyé. Cet envoi, il existera aussi pour ses disciples, puis pour l'Église et pour chacun de ceux qui se mettent à sa suite. Alors, cette notion d'envoi.
Tout à fait. Alors, il y a dans l'évangile de Jean vraiment cette relation où il y a une espèce de correspondance entre le lien entre le Père et le Fils et le lien entre ses disciples et Jésus. Hein. Comme le Père m'a aimé, moi je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Hein. Donc cette espèce de nous faire rentrer dans cette relation, dans cette trinité, en disant que de même que le Père a envoyé le Fils nous envoie, de même que le Père a aimé le Fils nous aime, de même que... Voilà, c'est cette espèce de circulation à l'intérieur de Dieu, qui est d'ailleurs une autre façon d'évoquer la demeure, l'habitation dont on parlait tout à l'heure, et c'est cela qui est présent dans ces versets.
Autrement dit, quand on entend ce texte, on vient de commencer la lecture, on s'aperçoit que Dieu n'est pas un être solitaire figé dans son espace, mais que c'est une circulation d'amour entre un Père, le Fils il y a l'Esprit Saint aussi. Et l'homme est associé à cette circulation.
Voilà, l'homme est invité à rentrer dans cette relation d'amour, dans cette trinité d'amour qu'on trouve dans ces passages de l'Évangile.
L'Évangile de Jean se poursuit et c'est Jésus qui parle. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il est question de défenseur. Alors que signifie ce mot exactement ?
Alors le défenseur, donc c'est une des, donc le paraclète, hein, c'est une des expressions pour désigner l'Esprit Saint. Et je crois que ce que Jésus annonce ici, c'est aussi très important dans l'évangile de Jean, pour nous permettre de comprendre ce qu'est l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, c'est toujours un petit peu compliqué, on ne sait pas très bien comment le qualifier, une personne, comment. Et il me semble que dans l'évangile de Jean, c'est peut-être l'évangile qui nous le dit de façon le plus claire. Et peut-être on va repérer avec trois moments dans l'évangile de Jean. Il y a d'abord le baptême de Jésus, et le baptême de Jésus, Jésus est désigné par le baptiste, comme étant celui qui baptisera dans l'esprit. Hein, moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il est plus grand que moi, et lui, il vous baptisera dans l'esprit. Donc, au moment de son baptême, Jésus est annoncé comme celui qui donnera l'esprit. Et puis après, dans tout l'évangile, on parle assez peu de l'esprit, et puis il réapparaît, j'allais dire, dans ce discours des adieux, dans ce testament de Jésus. Dans ce testament de Jésus, Jésus dit à ses disciples, voilà, je vais vous quitter. Il annonce très clairement la croix, mais il dit, mais je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un défenseur, je vous enverrai un paraclète, je vous enverrai l'Esprit. Et puis donc là, Jésus annonce l'Esprit comme étant, quelque part, celui qui le remplacera le jour où il aura quitté ses disciples. Hein.
Comme l'enseigneur.
Voilà, et de dire, quand les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient pas besoin de l'Esprit, ils avaient Jésus. Et puis quand Jésus annonce son départ, Jésus dit, mais l'Esprit viendra et c'est lui qui vous enseignera tout. Et puis, à la fin de l'évangile de Jean, après la résurrection, hein, on voit Jésus le ressuscité qui retrouve les disciples qui étaient dans la chambre haute, et puis à ce moment-là, il souffle sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc il leur donne l'Esprit. Et dans cette architecture, d'une certaine façon, l'Esprit, c'est celui qui remplace Jésus lorsque Jésus n'est plus avec ses apôtres. Et l'Esprit, c'est ce qui va accompagner le chemin de foi des apôtres après le départ de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, il vous rappellera toutes mes paroles. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit, peut-être ne percevez-vous pas tout. Maintenant, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas totalement comprises. Eh bien, avec l'Esprit, en le vivant, et bien progressivement, ces paroles reviendront à votre mémoire et ces paroles trouveront toute leur plénitude en vous.
Antoine Nuis, nous continuons à regarder ce testament spirituel de Jésus en Jean 14, versets 23 à 29. Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Il y a donc une paix du monde et une paix offerte par Jésus. Deux paix différentes.
Absolument. Alors, la paix du monde, moi j'avais fait un peu la comparaison avec deux termes. J'avais appelé la Pax Romana, la paix romaine, et le shalom biblique, la paix biblique.
Et c'est quoi la différence ?
La différence, c'est que la Pax Romana, donc la paix romaine, c'était une paix qui était d'abord une absence de conflit, mais qui était imposée par un pouvoir, par un pouvoir militaire, par un pouvoir économique, par un pouvoir religieux, par un pouvoir culturel. C'est quelque part, Rome impose son pouvoir et interdit aux gens de se faire la guerre. Et donc, en cela, impose, je veux dire, la paix. C'est la paix, imposée militairement. Alors, il ne faut pas négliger cette paix. Elle est mieux qu'un conflit. Mais la paix biblique, c'est le shalom. Et le shalom, donc, ce n'est pas la paix imposée. Mais c'est la paix, c'est la paix intérieure. C'est la paix qui est associée à la justice. C'est la paix du Christ. Et la paix du Christ, ce n'est pas une paix militaire. Mais c'est une paix que nous sommes invités à recevoir dans tous les troubles et les conflits que nous traversons.
Jésus poursuit son discours d'adieu en disant à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé ». Jésus console ses disciples. En fait, eux, ils savent que l'issue va mal se terminer. C'est une parole de consolation, là, d'encouragement que Jésus donne à ses disciples.
Ils savent ou ils savent pas, je sais pas, ils l'ont entendu, l'ont-ils intégré, l'ont-elles compris, hein, je dirais, une des constantes qu'on trouve dans l'évangile, alors c'est surtout dans les autres évangiles, mais c'est que chaque fois que Jésus annonçait sa passion, les disciples vont pas l'entendre, les disciples vont pas le comprendre, pour eux ça ne fait aucun sens,
enfin je dirais. Ouais, ils disent non, ça va pas t'arriver, quoi.
Voilà. Et parce que pour eux, le mot Christ et le mot croix sont deux mots qui sont incompatibles. Hein. Le mot Christ, ça veut dire le chéri de Dieu, le oint de Dieu, le béni de Dieu. Et la croix représente ce qui est maudit, ce qui est ignoble. C'est, donc,
scandale.
Le scandale total. Et les deux ne sont pas compatibles. Et là, progressivement, Jésus essaye d'habituer ses disciples, il les prépare, il les équipe, il les arme à son départ, et son départ qui sera la croix, et à pouvoir vivre malgré la croix. Et y compris, voilà, un moment dans ces passages-là, il y a un verset qui dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille », ce qui est une parole qui devait être impossible à entendre pour les disciples. Comment la croix peut-il être du registre
du préférable?
Jésus justement dit « Mais parce que vous aurez l'esprit et parce que vous aurez la possibilité de poursuivre la route sans moi ». Et c'est cette promesse-là, cet équipement-là qui leur laisse dans ce discours.
C'est pour ça qu'il poursuit en disant « Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous ». Donc il faut qu'il parte pour qu'il revienne. Mais alors il revient, ça veut dire quoi?
Il revient vers vous. Alors là, il me semble, enfin moi je l'entends comme étant effectivement une référence à la promesse de l'esprit.
Hein. L'esprit,
je reviens vers vous par mon esprit. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, que l'esprit c'est celui qui représentera Jésus dans le cœur et dans la vie des disciples après son départ. Et donc en disant voilà, que je m'en vais, mais je reviens vers vous. J'allais dire d'une forme différente, sur un mode d'être différente, et qui n'est plus voilà, la présence physique d'un homme, d'un maître, mais qui est sous la présence de l'Esprit-Saint.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que le verbe est au présent. Je reviens vers vous. Il ne dit pas « je reviendrai un jour », mais « je reviens ».
Alors ça, c'est quelque chose à accueillir. Jésus revient, à la limite, Jésus ne cesse jamais de revenir. Hein, je dirais c'est... Et d'ailleurs, dans la Bible, il n'y a jamais écrit que Jésus revient, écrit « Jésus vient ». Vient, vient. D'après la notion de Jésus revient, c'est revenir... dans le même registre de ce qu'il a été. Hein. Alors que Jésus vient, c'est il vient dans une radicale nouveauté. Et Jésus ne cesse de venir à nous.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Jésus, Antoine Louis, poursuit son discours d'adieu aux disciples et il dit « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » Et là, on se dit « Bah oui, mais comment se réjouir, sachant qu'il va partir ?»
c'est une parole incroyable.
Enfin, c'est difficile.
Une parole difficile à entendre et à la limite de ce qu'on peut presque supporter, enfin, je veux dire.
Humainement.
Voilà. Comment être dans la joie quand on sait que lorsque Jésus parle de son départ, il parle de la croix, eh ben, ça, c'est peut-être qu'une parole qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on doit entendre et qu'on doit recevoir. Voilà. Bah, recevoir dans la confiance et comme étant, voilà, peut-être qu'il y a une parole d'évangile pour moi aujourd'hui là-dedans.
Et quand il dit que le Père est plus grand que lui, ça introduit une idée de hiérarchie ou pas du tout? Parce qu'on dit dans la tradition que non, toutes les personnes de la Trinité sont égales.
Alors oui, alors là je crois que quand il dit cela, enfin c'est une figure de style, hein, c'est une figure de style pour me dire je vais voilà vers mon accomplissement et mon accomplissement c'est vers le Père, donc ne soyez pas triste, certes je vais traverser l'épreuve, mais je vais achever ma mission, mon chemin. La question se pose par rapport à nos propres deuils, hein, par rapport aux gens que nous bains. Alors nous pouvons dire certes celui qui nous a quittés, on peut dire que dans la foi, dans l'espérance qu'il est en Dieu, et que mais de cela se réjouir, on se réjouit pour lui, mais on est quand même traversé par la peine, on est quand même dans cette contradiction qui est la contradiction de notre humanité, et il me semble que c'est un peu cette contradiction dans laquelle se trouvent ses disciples dans ce moment-là.
Antoine Louis, il faut relire avec vous la finale hein, de ce texte. Jésus dit « Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez ».
Voilà, et vous croirez, c'est chose assez intéressante, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous ne pouvez pas tout comprendre. Et d'une certaine façon, c'est vrai que au moment là où se trouvent les disciples, je veux dire, la perspective de la croix ne peut être conçue que comme étant le mal absolu, hein, comme étant l'échec. On avait cru à cette histoire, c'était une belle histoire, mais on s'est trompé. Hein. Et pourtant, dit Jésus, un jour vous comprendrez que derrière cette mort, il y a autre chose. Il y a quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, un certain nombre de choses que j'ai pu vous dire dans le passé reprendront une couleur, une compréhension différente. Et il me semble que pour nous, c'est quelque chose que nous pouvons entendre en disant, voilà, qu'il y a parfois des choses dans la foi que nous ne comprenons pas tout de suite, mais nous pouvons les garder en nous. Et peut-être qu'un jour, avec la vie, avec les événements, nous comprendrons mieux. Hein, nous comprendrons mieux. Et c'est cette promesse-là que Jésus laisse à ses disciples à ce moment-là. Parce qu'effectivement, je crois qu'il ne... ils ne peuvent pas tout comprendre à ce moment-là. C'est qu'après qu'ils comprendront.
On peut reprendre cette idée avec la rédaction des évangiles. Il a fallu du temps, des années et des années pour mettre en forme un récit, pour mettre en forme les choses, pour que les disciples comprennent le sens finalement de la croix.
Absolument. Il a fallu un temps de maturation, il a fallu un temps de laisser voilà, le temps, et, y compris pour que, voilà, comme vous disiez tout à l'heure, quelles sont les différentes interprétations de la croix qu'on peut avoir, ben, c'est quelque chose qui n'est pas tombé du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a été avec la vie, qui a été mûri, et qui progressivement s'est façonné. Et je dois dire que voilà que c'est quelque chose aussi que nous pouvons reprendre pour chacun d'entre nous. Moi aujourd'hui, j'ai à la fois la même foi que quand j'avais 20 ans, mais ça n'est pas la même. Elle est plus approfondie, elle est plus épaisse, elle est plus.
Elle a été travaillée par les événements aussi.
Elle a été travaillée, voilà, et que la vie aussi m'aide à mieux comprendre l'Évangile.
Antoine Wyss, nous venons de regarder attentivement l'évangile de ce dimanche dans Jean, chapitre 14, versets 23 à 29. En quoi ces paroles que Jésus adressait à ses disciples nous concernent aujourd'hui en 2019 et en quoi sont-elles bonnes nouvelles ?
Eh bien, elles sont bonnes nouvelles parce que les disciples, à ce moment-là, s'apprêtent à vivre l'épreuve la plus terrible à laquelle ils vont être confrontés, c'est que la mise à mort de celui en qui ils avaient investi toute leur vie, et que pour eux ça va être conçu comme un échec total dans un premier temps. Et pourtant Jésus dit, il y a une fécondité là derrière, vous recevrez l'Esprit et vous pourrez poursuivre la route. Et bien il me semble que l'Évangile ne nous dit pas à nous aujourd'hui que nous serons épargnés par les épreuves de la vie, mais dans ce récit nous entendons cette annonce que il y a toujours en Dieu un avenir possible, c'est-à-dire un au-delà de nos épreuves, et de pouvoir trouver en Dieu la force de pouvoir poursuivre nous aussi la route.
Alors trouver en Dieu la force pour continuer.
Par l'Esprit, hein, c'est comme ça que Jésus le dit à ce moment-là.
Par l'Esprit, alors justement, Esprit envoyé par le Père, mais en nous entendant, les auditeurs vont peut-être se demander, oui mais l'Esprit, où le trouver? Où le rencontrer? Dans une église?
Alors,
c'est finalement celui qui peut nous transmettre qui est Jésus, puisque c'est ce qui est dit dans le texte.
Alors, on a évoqué tout à l'heure, on a un peu dit quelques mots sur la Trinité. Hein. Moi, justement, je reviendrai sur le premier verset. Hein. Celui qui garde ma parole, avec le Père, j'y viendrai, je ferai ma demeure en lui. Hein. Donc, peut-être que pour ouvrir l'esprit, il y a être capable de garder la parole, de ruminer, de travailler,
de la lire, donc.
D'entendre, de lire cette parole-là, et puis d'accueillir le Christ. Et accueillir, voilà, c'est par l'esprit que nous pouvons accueillir le Christ dans notre histoire, et avec le Christ, traverser ce que nous avons à vivre.
C'est seul ou en église?
Alors,
parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui, mais moi je veux être chrétien tout seul. J'ai pas besoin de l'église.
Je crois que la démarche de foi est une démarche qui est essentiellement personnelle. Cela étant, nous ne sommes pas invités à être chrétiens tout seuls, parce que lorsque nous sommes chrétiens tout seuls, bah, progressivement, nous avons tendance à nous éteindre. Et nous avons aussi besoin de l'église pour nous aider, pour nous porter les uns les autres, et pour nous aimer les uns les autres, tout simplement. Enfin, je dirais, et que si la foi est quelque chose d'éminemment personnel, je suis invité à vivre cette foi en compagnie et en église.
Au sujet de la paix que Jésus nous donne aujourd'hui, Dieu sait si les hommes et les femmes de ce monde peuvent avoir peur hein, que cette paix ne demeure pas. Ça fait 70 ans qu'en Europe, il n'y a pas eu de guerre, mais certains doutent que cela dure.
Là encore, là, on reprend sur ces deux compréhensions de la paix. Alors nous devons, je dirais en tant que citoyens, politiquement, travailler pour effectivement essayer de maintenir au maximum les conditions de la paix. Et pour cela... la meilleure façon de faire, c'est effectivement de travailler à la justice. Mais la paix que nous laisse le Christ, c'est aussi une paix intérieure. Et c'est cette assurance que, avec le Christ, nous pouvons recevoir une présence qui nous donne une paix intérieure, qui pourrait nous permettre de demeurer en nous lorsque nous traversons les troubles et les fureurs de notre monde.
C'est-à-dire rester, demeurer en lui.
C'est le grand mot de l'évangile de Jean. Hein.
Tout en vivant la vie actuelle avec ses péripéties et parfois ses douleurs, ses difficultés.
Et ses drames et ses épreuves. Et en tout cas, voilà. Je ne veux surtout pas faire le fier en disant ça. Moi, je me suis, j'entends ce que Jésus a dit à ses apôtres. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, ses apôtres vont vivre la plus terrible des épreuves. Et pourtant, Jésus leur dit, il y a un esprit. Pourtant, Jésus leur dit, il y a la paix. Pourtant, Jésus leur dit, il y a un avenir possible. Pourtant, Jésus leur dit, il y a le Père et le Fils à recevoir sur votre chemin. Et bien, ces paroles que Jésus a dites à ses disciples, et bien, je veux les recevoir pour moi aussi à travers ce jour et les jours qui viennent.
Merci à vous, Antoine Wyss, Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un commentaire intégral du Nouveau Testament qui est paru en 2018 chez Olivetan et Salvator, un ouvrage qui m'a aidé pour préparer cet entretien. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique.